Canal Académie. L'entretien de la semaine. Rencontre avec un académicien.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez L'Envie de Savoir, l'émission de culture générale de Canal Académie à l'Institut de France. Chaque semaine, une académicienne ou un académicien nous éclaire sur un savoir et aujourd'hui, nous allons parler d'un récit dont nous fêtons les 850 ans en 2024. Il s'agit du roman de Renard. La rédaction de ce recueil a débuté autour de 1174 et à ce titre, il figure au calendrier des commémorations de France Mémoire. Alors comment ce récit animalier, satire de la société médiévale, s'est-il imposé dans notre patrimoine littéraire? Nous sommes en compagnie de Michel Zinck pour en discuter. Michel Zinck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes membre de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Vous êtes un spécialiste de la littérature au Moyen-Âge. Vous êtes donc la personne tout indiquée pour nous parler de ce texte, devenu aujourd'hui un incontournable de la littérature jeunesse. Alors on est tous familiers de ce récit, de ce personnage, Renard, bien sûr, de son meilleur ennemi Isengrin, le loup un peu naïf. Tous ces animaux figurent dans ce recueil qu'on appelle « Roman de Renard », mais qui n'est pas, contrairement à ce que nous dit ce titre, un roman, au sens où on l'entend aujourd'hui.
Oui, vous avez raison, ce n'est pas un roman au sens où on l'entend aujourd'hui. Alors, le genre même du roman est nouveau à l'époque du roman de Renard, c'est-à-dire un récit long. À l'époque, la prose littéraire n'existe pas, c'est en couplets d'octosyllabes, des vers de huit pieds qui riment A, B, B, C, C. Et ce n'est pas chanté, alors que jusque-là, les récits et les chansons de geste étaient chantés. Et ça s'appelle roman parce que le roman, c'est la langue romane, les langues néo-latines dérivées du latin, par opposition au latin. Et que on a commencé à écrire des œuvres adaptées du latin, ce qui est peut-être le cas du roman de Renard, une discussion. Et traduire du latin, ça se disait « mettre en roman ». Ce n'est pas un roman parce que ce sont des récits séparés qu'on appelle des branches.
Alors pourquoi des branches ?
Le mot s'emploie dès le Moyen-Âge, mais probablement parce que c'est comme une arborescence à partir d'un personnage de base, qui est Renard, ou de deux personnages, se développent toutes sortes d'aventures, comme à partir d'un personnage type. Alors, en 1174, oui, c'était peut-être en 1174, bon, on n'est pas
c'est
absolument,
c'est
à peu près dans ces années-là.
Voilà.
Mais il y avait, d'une part, depuis assez longtemps, des poèmes latins sur des animaux et particulièrement sur Renard. Mais d'autre part, il y avait une tradition des contes d'animaux qui traînait presque dans le monde entier, en particulier en Inde et au XIXe siècle. Et tout cela se conjugue pour donner une véritable œuvre littéraire.
Donc les origines sont plurielles, les auteurs aussi, il n'y a pas qu'un seul auteur. Donc à l'époque, ils sont pour la plupart anonymes. La notion d'auteur au Moyen-Âge ne s'est pas encore véritablement imposée. Aujourd'hui, on pourrait voir ça comme du plagiat, des auteurs qui s'inspirent des anciens. Au Moyen-Âge, pas du tout. L'intertextualité, l'imitation des textes des anciens se confond avec la créativité.
Oui, il est vrai que la plupart des branches sont anonymes, mais pour la branche la plus ancienne, nous avons un nom, celui de Pierre de Saint-Cloud. Et les textes du Moyen-Âge ne sont pas aussi anonymes qu'on a voulu dire ça. Bah,
c'est, ah oui.
Si Dieu me prête vie, ce sera peut-être le sujet d'un prochain livre. J'avais fait un cours au Collège de France là-dessus. Mais enfin, ça nous entraînerait trop loin. Et les branches, en dehors de Pierre de Saint-Cloud, ces branches du roman de Renard sont anonymes, mais il y a comme des réfections du roman de Renard et des utilisations du roman de Renard dans d'autres œuvres qui, elles, sont d'auteurs connus. Rudebeuf, un certain Jacques Marjallet, le chroniqueur Philippe de Novare à Chypre, qui est récemment. Et donc, c'est l'écho dans l'ensemble de la littérature, anonyme ou pas anonyme, est très important.
Vous le disiez tout à l'heure, la littérature animalière rencontre beaucoup de succès au Moyen-Âge. C'est aussi le cas du roman de renard, j'imagine ?
Oui, alors le roman de renard a eu un succès considérable. Nous en avons beaucoup de manuscrits. Et c'est justement parce qu'il a eu ce succès considérable qu'il est récupéré par des auteurs qui ne veulent pas écrire particulièrement une branche du roman de renard, mais qui l'utilisent pour leurs propos et qui l'utilisent à des fins de satire sociale ou politique. Et pourquoi éprouver le besoin d'utiliser Renard ? D'une part, justement, à cause de son succès, tout le monde le connaît, tout le monde connaît les histoires les plus répandues, et donc c'est un personnage qu'on peut récupérer. Et d'autre part, c'est un personnage ambigu. Renard, c'est... Il y a un mot anglais pour cela, alors que je ne devrais pas utiliser, mais la commission de terminologie, enfin, d'enrichissement de la langue française, c'est le trickster, c'est le trompeur. Le Bernard, dont la caractéristique, c'est de jouer des tours, de tromper, etc. C'est pour ça que je le rapprochais d'Arsène Lupin, si on veut. Bon. Et... Alors, Renard est un personnage à la fois sympathique et antipathique. C'est le gentil cambrioleur, mais aussi le méchant, qui joue des tours pendables, qui est vraiment méchant. Il va faire la cour à Hersant la Louve en l'absence de son mari Isengrin, mais il lui fait la cour, mais il va compisser les louveteaux, ce qui n'est pas aimable. Donc, Isengrin est furieux. Isengrin et Hersant poursuivent Renard, qui se réfugie dans son terrier, Hersant le poursuit, elle est furieuse. Mais une louve, c'est plus gros qu'un renard, donc le terrier est trop près, reste coincé. Renard ressort par une autre issue et fait le tour et elle est coincée, la viole par derrière, Atergo more ferrarum. On dit bon, c'est pas des procédés recommandables. Il fait constamment des choses comme ça. Et Isengrin, comme vous l'avez dit, est un balourd, qui se laisse toujours avoir. Et le résultat, c'est que dans cette société de l'honneur qu'est la société médiévale, et comme un personnage littéraire a du mal à rester ambigu, il finit par devenir méchant ou par devenir bon dans les suites. Mais il faut un esprit subtil pour garder l'ambiguïté d'un personnage. Renard bascule, et généralement, il bascule vers le mal, parce que sa duplicité scandalise.
Alors, on ne peut pas ignorer non plus le fait que le renard est un animal qui est roux. Le roux, au Moyen-Âge, c'est la couleur du diable. C'est un mot qui revient énormément dans les récits.
Oui, alors le roux, c'est la couleur du diable, et je ne sais pourquoi, c'est la couleur de Judas. Judas est représenté roux. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, mais Renard est roux, et l'ultime avatar de Renard au XIVe siècle, c'est un roman satirique qui s'appelle Fauvel, et Fauvel, comme on l'indique, a un pelage fauve. Et c'est un animal qui règne sur le monde par l'hypocrisie, par tous les vices, hein, mais il règne, et du coup, tout le monde est à ses pieds, hein, et tout le monde se bat pour torcher Fauvel. Enfin, torcher veut dire lui brosser le poil, le pelage. Ça, bon, enfin bon, on veut, et ça commence comme ça. Comment le monde entier, les princes, les grands seigneurs, les évêques, les cardinaux, tout le monde se précipite pour torcher Fauvel et faire carrière. Et donc la couleur du pelage de renard devient le signe de la bassesse dans les relations sociales et de la duplicité dans les relations sociales.
Et cette tanière qui s'appelle Maupertuis, Pertuis qui signifie le passage et Maup le mal. Donc encore une fois, la
c'est,
portée morale.
Bah, c'est le mauvais passage, c'est le mauvais trou. Si je veux dire. Bon, la pauvre Hersant l'a appris à ses dépens.
Alors c'est un recueil intéressant parce qu'il nous dit aussi beaucoup d'une société régie par la féodalité. Parmi les personnages, donc on a parlé d'Isengrin, aussi son meilleur ennemi, il y a aussi le roi des animaux, Noble. C'est un personnage à ces couards qui cherchent à tout prix à éviter les conflits. C'est un clin d'œil aux souverains de l'époque aussi.
Oui, alors, oui, ben, probablement. Noble, ben, c'est le défaut des rois. Il est influençable. Noble, justement, renard s'en tire toujours parce qu'il est malin. Il est surtout plus malin que noble. Donc, noble le laisse partir, s'en repent ensuite. Enfin, bon, voilà. Et l'honnête Isengrin qui veut quand même se venger son honneur après l'histoire d'Hersant, et puis les autres à qui renard a joué des tours pendables, c'est-à-dire pratiquement tous les animaux, veulent qu'il soit condamné par noble. Et noble veut le condamner, mais au dernier moment, renard promet de faire pénitence, il est tellement crédible, etc. Et il s'en tire comme cela. Mais, vous avez raison, c'est une satire du fait qu'il n'y a pas de bon gouvernement et que ce sont les habiles qui s'en tirent.
Vous avez évoqué la branche 1 de ce roman de renard. C'est la branche qui rencontre le plus grand succès au Moyen-Âge. Dedans, elle comprend le jugement de renard. Donc, renard a fini par être dénoncé, capturé. Il est condamné à la potence.
Oui.
Tout semble le condamner. Et pourtant, il parvient à retourner l'opinion contre ses accusateurs. Sa rhétorique fait de l'effet. Est-ce qu'on peut dire que c'est un grand rhéteur?
Alors, c'est ça. C'est Renard règne par l'habileté de la parole. On le voit bien dans l'épisode du corbeau et du renard. On le voit avec Chantecler, le coq. On le voit avec Isengrin constamment. Il réussit moins bien avec Tibère le chat parce que Tibère est malin, mais tout joue sur la parole. Et donc, c'est un rhéteur, c'est un sophiste.
Le texte paraît en langue romane. Qui comprend cette langue au Moyen-Âge?
Tout le monde. Justement, à l'époque, il disait souvent la langue romane pour l'ensemble des parlés nés de la déformation du latin parlé, du latin vulgaire. Et c'est la langue qu'on parlait sur l'espace de la France actuelle, de la Wallonie, enfin bon, avec les frontières linguistiques particulières, et dans l'Angleterre, au moins à la cour anglaise, d'après la conquête de Guillaume le Conquérant en Normandie. Et ce qui est frappant, mais ça, nous en avions parlé ensemble, c'est que français, ces langues romanes, se développent très vite, parce que la nécessité d'être compris du peuple pour des raisons religieuses, pour l'évangélisation, oblige les détenteurs du savoir, de l'écriture, qui font tout en latin, qui n'utilisent que le latin, les clercs, comme on dit, à utiliser cette langue vernaculaire pour être compris.
Et toujours une question géographique, parce qu'on disait que c'était des moines plutôt du nord de la France et de Flandre qui se sont saisis de cette histoire dans un premier temps. Est-ce que l'histoire se diffuse aussi dans le sud de la France?
Probablement, mais nous n'avons pas de roman de renard en Languedoc. Mais ce qui se passe, c'est que en Languedoc, la poésie d'amour apparaît en Languedoc, les troubadours, même, bon, et c'est finalement la création peut-être la plus importante pour l'évolution de notre civilisation, et sont des poète incomparable, les troubadours. Et assez vite, la littérature française s'impose, même au sud, pour des raisons politiques, à la suite de la croisade dite albigeoise, la croisade pour la mainmise du royaume de France sur les terres du sud, mais aussi parce que cette littérature française n'a pas toujours le génie de la littérature doc, mais elle est beaucoup plus abondante et beaucoup plus variée. Justement. Et alors, pour le roman de renard, en Languedoc, on n'en a pas. On en a, bon, mais des histoires d'animaux, on en a dans d'autres langues romanes. Et par exemple, je parlais donc de Kalila et Dimna arabes. Eh bien, à la charnière du XIIIe et du XIVe siècle, le catalan Raymond Lull, un personnage extraordinaire, poète qui s'est converti mystique, logicien, théologien, missionnaire, qui avait appris l'arabe, qui voulait convertir les infidèles. Bon, comme il sait l'arabe, adapte sous le titre l'histoire de Kalila et Dimna en catalan, et à ce moment-là, c'est retraduit en français sous le titre Le Livre des Bêtes. Et non, mais c'est pas le roman de renard, mais ça, c'est ces histoires d'animaux qui reviennent par une autre source. Donc, ces histoires circulent partout, et il y en a dans l'Europe entière, mais le roman de renard français est tout de même unique, et côté germanique, Reinhard Fuchs, donc reprend le nom de Renard et dérive vraiment du roman de Renard, comme à la même époque, les romans arthuriens allemands sont d'abord des adaptations des romans français de Chrétien de Troyes ou d'autres, etc.
J'avais une petite question, parce que le succès du roman a été tel que Renard a remplacé le mot goupil qui désignait l'ancien nom de l'animal. Quelle est l'étymologie de ce mot Renard? C'est une étymologie plutôt germanique?
Alors, oui, c'est ça. Goupil, c'est vulpem, c'est le mot latin. C'est normal que Renard s'appelle goupil. Et Renard, c'est effectivement un nom germanique, de sorte que quand on l'appelle Reinhardt, on retrouve son nom, en fait. Et c'est un nom germanique parce que Renard est à la cour de nobles, non ? Et donc, il a un nom germanique parce que les noms germaniques étaient des noms aristocratiques. C'est probablement pour cela. Enfin, du ça au hasard, je n'étais pas, hein, mais enfin, ce n'était pas impossible.
Alors, je me permets de faire un saut dans le temps. Le roman est par la suite un peu tombé dans l'oubli. Il faudra attendre le 19e siècle pour qu'il soit à nouveau adapté par Paulin Paris, notamment. Aujourd'hui, on retrouve le texte dans les rayons jeunesse des librairies. Il est aussi dans les programmes scolaires pour les élèves. C'est une bonne introduction pour les jeunes élèves au Moyen-Âge ?
Oui, c'est une excellente introduction. D'ailleurs, le roman de Renard lui-même a cessé d'être lu comme une grande partie de la littérature du Moyen-Âge. Pas toutes, et parce qu'il n'a pas été mis en prose. Au XVIIe, XVIIIe, on lit encore des romans médiévaux, mais souvent dans des mises en prose de la fin du Moyen-Âge. Et surtout, ce qui a plu à l'époque classique, c'est la fable. Et on retrouve Renard ou des bêtes comme ça chez La Fontaine. La première fable de La Fontaine qu'écrit La Fontaine, c'est Le Loup et l'Agneau. Mm-hmm. Alors évidemment, les personnages ont un peu changé de caractère, mais enfin, le loup est brutal,
etc.
On retrouve ça. Et dans le cas de Paulin Paris, c'était pas tout à fait comme Victor Hugo et les épisodes médiévaux de la Légende des siècles. Hein. C'est Paulin Paris était un savant. C'était un médiéviste. C'est pour Paulin Paris qu'a été créée une chaire pour la littérature du Moyen-Âge au Collège de France en 1851. Et cette chaire qui a été... Il n'y a pas de continuité des chaires, mais là, il y en a une de 1851 à 1974. Après, il y a eu son fils, Gaston Paris, etc., jusqu'en 1974. Ouais. Et puis, elle a disparu pendant 20 ans. Elle a été recréée pour moi en 1994. Et elle a redisparu à ma retraite en 2016. Donc c'est le moment où cette étude de la littérature et de la poésie du Moyen-Âge devient une science, si on veut, ou en tout cas se fait sérieusement. Et c'est dans ce cadre que Paulin Paris, qui était sensible à la littérature populaire, a vu le parti qu'on pouvait tirer d'adaptation du roman de Renard pour un large public, pour les gens, et alors, du coup, ça a été poursuivi. C'est ce qu'a fait, beaucoup plus tard, Maurice Genevoix. C'est ce qu'avait fait avant Louis Pergaud, mais qui dit de Goupil à Margot, parce que pour lui, c'est Goupil qui, naturellement, qui faisait le mot ancien, et qu'il a repris. Et aujourd'hui, le faire lire dans les classes, c'est une très bonne idée. Enfin, c'est quelque chose qui est à la fois amusant, qui est, oui, effectivement, moralement instructif, justement parce que les personnages sont ambigus, et qui est littérairement très intéressant, parce que si les traductions sont fidèles, il y a quelque chose qui est vraiment bien fait dans le roman de Renard, dans les meilleures branches. Ce sont des animaux qui ont des comportements humains. Et on les voit de temps en temps comme des animaux, de temps en temps comme des hommes. Par exemple, Renard est convoqué et terrifié à la cour du roi noble. Et il y va. Là. Et on dit, il monte sur son cheval et il y va. Mais le cheval va pas si vite et il a mal aux jambes. Et au moment d'un moment, on voit que les jambes du cheval sont les siennes, naturellement. Ou la pauvre poule peinte a été tuée par renard. Alors, forfait de renard, une fois de plus. Bon. Donc, on enterre peinte, et alors, il y a un éloge funèbre de peinte, qui est tout à fait humain, hein, et alors, on loue la défunte d'avoir pondu les gros œufs. Hein, et où Chantecler, hein, le coq, se désespère, hein, et il se tord les bras. Mais de toute façon, c'est qu'il agite les ailes. Hein, et à chaque instant, on voit, c'est, quand on essaye de s'imaginer la scène, d'un vers à l'autre, c'est entre un homme, entre un animal. Et quand je disais que c'est pas écrit n'importe comment, c'est très bien fait, souvent. Il y a d'autres branches qui sont moins habiles, etc. Mais enfin, voilà.
Alors, je ne vous demande pas comment se termine le récit. Pour ceux qui veulent connaître la suite des péripéties de Renard, est-ce que vous avez une édition
Oui, alors, il y en a deux que je conseillerais. Il y en a une, la meilleure pour le grand public, pas l'édition savante qu'ils ont utilisée, c'est celle des classiques français du Moyen-Âge, chez Champion, 6 ou 7 volumes. Bon. Mais sinon, il y a un Pléiade du roman de Renard. Tous les Pléiades médiévales du Moyen-Âge ne sont pas exemple, mais celui du roman de Renard est très bien. Mm-hmm. Et il y a la traduction, et comme fait la Pléiade, le texte en ancien français en bas, c'est très bien. Donc si on a les moyens de s'offrir un Pléiade, c'est bien dirigé par Armand Strubel. Et puis, dans la collection que j'ai créée, depuis 40 ans au livre de poche, je viens de passer la main à Sylvie Lefebvre, enfin, il y a plus d'un an maintenant, et cette collection qui s'appelle Lettres gothiques, et qui donne des textes du Moyen-Âge français, en languedoc, latin, quelquefois, bon, il vient d'y avoir un texte anglais, Sir Gawain, le Chevalier Vert, donc en bilingue, comme les Budets, comme ça, là, texte dans l'ancienne langue d'un côté, et la traduction de l'autre. Il y a un roman de Renard, fait par Gabriel Biancheto, qui est aussi très très bien, qui est présenté de façon comme continue, comme une histoire suivie, mais c'est très bien, c'est moins coûteux que le Pléiade. Voilà.
Et nous mettrons tous les liens sur la page de l'émission. Et pour en savoir plus, j'invite aussi les auditeurs à lire la notice de France Mémoire sur le sujet, qui sera aussi sur la page de l'émission. Merci beaucoup Michel Zinc.
Mais merci Marie.
Canal Académie.